Elle s'appelle Jocelyne Porcher. Certains la présentent comme la plus grande ennemie des militants véganes. Cette sociologue directrice de recherche à l'INRA a commencé comme éleveuse de chèvres et de brebis et elle a fait de la question de la souffrance au travail dans les productions animales son principal sujet d'étude. Elle publie un petit livre, Cause animale, cause du capital, dans lequel elle s'insurge contre le véganisme qui met selon elle en péril l'activité des élevages traditionnels au profit de l'industrie qui travaille déjà sur les produits de substitution à la viande. Jocelyne Porcher est mon invitée dans un instant et vous allez pouvoir dialoguer avec elle en direct au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et vous passez Camille ce début de semaine à Monaco.
Eh oui, j'ai décidé de vous quitter Mathieu. Les experts du GIEC, en fait, les experts sur le climat, sont réunis jusqu'à mercredi pour finaliser leur rapport sur les océans à Monaco. Donc oui, contraste assez saisissant. Je vais vous faire une petite carte postale tout à l'heure.
À tout à l'heure. Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Hugo Aguilagnou, un généticien français qui travaille au Brésil et qui va lancer un appel pour trouver des partenaires pour la formation de jeunes chercheurs. Antoine Lee, bonjour.
Bonjour Mathieu.
C'est vous Antoine qui signez la série de reportage cette semaine. Où est-ce que vous êtes rendu pour la Terre au carré ?
Eh ben, je me suis rendu en banlieue, dans les cités, parce que c'est vrai, lorsqu'on parle des quartiers, c'est lorsque ça brûle, mais il s'y passe aussi beaucoup de choses positives, notamment en matière d'écologie.
Et puis enfin, notre invité découverte sera Brice Teinturier, le patron d'Ipsos, au sujet de cette enquête publiée la semaine dernière et qui montre que l'environnement est devenu l'enjeu essentiel pour les Français. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisée par Valérie Ayestaré, avec à la technique aujourd'hui Charles Pélabon et Florent Bujon.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Jocelyne Porcher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc sociologue, directrice de recherche à l'INRA, ancienne éleveuse de brebis, et vous publiez donc ce petit livre qui interpelle beaucoup, déjà dès son titre, Cause animale, cause du capital. Il paraît aux éditions du Bord de l'eau. Beaucoup vous reprochent de faire du vegan bashing. Qu'est-ce que vous répondez ?
Non, je m'interroge juste sur les circonstances et le contexte qui fait monter cette question du véganisme. Et je me suis juste demandé pourquoi maintenant. Parce que je travaille moi-même en tant que sociologue sur les systèmes industriels et j'ai posé depuis longtemps une critique à propos de ces systèmes et une dénonciation issue de la critique. Mmh. Et ça n'avait pas beaucoup d'écho depuis 20 ans. Enfin, il se passait rien. Et là, d'un seul coup, il y a une montée de la critique. Tout le monde a l'air de découvrir ces systèmes industriel, cruel envers les animaux, c'est un fait. Et ça va avec une montée du véganisme. Donc je me suis dit, déjà, pourquoi maintenant ? Mm-hmm. Et en quoi le véganisme peut être une solution à la souffrance des animaux ? Et en quoi ça va changer quelque chose pour les animaux et les systèmes industriels ? Et surtout, qu'est-ce que ça va faire à l'élevage ? C'est-à-dire que, dont je considère que c'est une relation de travail avec les animaux qui a sa légitimité historique et actuelle.
Quoi. Ouais, alors ce petit livre, vous l'écrivez, vous l'avez commencé en 2014 en vous posant justement cette question au sujet de la possible collusion d'intérêts entre les industriels des biotechnologies et les défenseurs des animaux. Alors pour bien comprendre, ces industriels, ce sont eux qui préparent la viande de demain, ce qu'on appelle la meat clear, c'est ça, hein, c'est-à-dire cette viande propre qui est en fait une viande sans viande.
Ben c'est-à-dire que il faut remonter hein, pour comprendre ce qui se passe en fait, c'est ce que je fais dans le livre, il faut remonter sur le fil historique de la prise en main par les productions animales de la relation de travail des paysans à leurs animaux. Et dans ce fil historique, on arrive maintenant, après avoir produit, mais je fais court, hein, mais après avoir produit de la matière animale à partir des animaux, les systèmes industriels, on extrait de la matière animale du corps des animaux, par exemple de la matière animale porcine, de la matière animale bovine. Là, on passe à un stade de niveau d'extraction plus faible, mais dont le système de pensée elle-même, c'est-à-dire qui considère l'animal tout pareil comme une ressource, au lieu d'extraire la matière animale de l'animal entier, on va l'extraire de la cellule. Ouais. Et donc, cette démarche, elle est portée par des start-up, des biotechnologies, et surtout derrière, par des multinationales, des milliardaires, des fonds d'investissement, des fondations non-profit, etc. Une immense manne d'argent qui se rue, on va dire, sur ces start-up pour produire effectivement la viande de demain et donc promouvoir, et c'est en ça qu'il y a une collusion, à mon avis, avec les défenseurs des animaux, promouvoir une agriculture sans élevage. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait.
Ouais. Alors, il y a deux choses dont on discutera avec vous, parce qu'il y a la discussion autour de l'industrie agroalimentaire, effectivement, pourquoi pas soutenue par les véganes en ce qui concerne cette viande du futur, mais il y a aussi quand même la défense de la souffrance animale, qui est quand même très, très intéressante. Et il ne faut pas, du coup, peut-être enlever cet aspect-là qui est très important dans le combat des véganes, quand même, non ?
C'est-à-dire, la critique des systèmes industriels, elle est légitime. La violence industrielle envers les animaux, elle est inadmissible. Elle n'a pas de sens. Enfin, j'ai jamais eu de mots assez durs pour la critiquer. Mais en même temps, pour moi, la solution, c'est pas d'exclure les animaux du travail, de faire disparaître les vaches, les cochons, les poules. C'est de transformer nos relations de travail avec eux pour refaire de l'élevage et reconstruire une relation de travail digne et respectueuse.
Ouais. Bon, là, ça va être dur de vous mettre d'accord sur cette question-là, évidemment, puisque pour les véganes, c'est enlever absolument toute présence animale de l'assiette en particulier, mais pas seulement d'ailleurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même que vous nous racontiez un petit peu votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas évidemment, parce qu'il est intéressant et puis il justifie aussi que vous puissiez prendre la plume pour écrire de façon aussi virulente sur cette question-là. Vous avez quitté Paris, je crois que c'était à l'âge de 25 ans à peu près, pour vous installer à la campagne sans aucune connaissance du monde agricole ou du monde de l'élevage. Et puis là, vous avez commencé à planter un potager, à élever des animaux, donc ça a commencé par les chèvres, ensuite les brebis. Et puis petit à petit, vous êtes intéressé justement à ces enjeux moraux de la question animale.
C'est-à-dire qu'effectivement, disons que je me suis installée comme néo-rural, mais c'est vrai que c'est la relation, c'est en travaillant avec les animaux que je me suis aperçue de quoi était faite cette relation. C'est-à-dire effectivement de morale, d'affection, de doute, de rapport à la nature, enfin de tout ce qui fait l'élevage. Et c'est le contraste après, quand j'ai quitté ma ferme, que je suis arrivée dans une porcherie industrielle dans le cadre d'un parcours de formation.
Donc ça, c'est en Bretagne. Hein.
Voilà, et là c'est le contraste entre les deux, entre ce que j'avais vécu, les gens que j'avais rencontrés qui élevaient des chèvres, des brebis, et puis à ces porcheries industrielles, où une violence inouïe, un animal qui comptait pas, des gens qui se disaient éleveurs. Et c'est ça qui m'a interpellée, qui a fait que j'ai fait un parcours de recherche ensuite, c'est que ces gens se disaient éleveurs. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça a à voir ce qu'ils font avec l'élevage, avec ce que moi j'ai vécu? Est-ce que c'est moi qui ai raison et les gens avec qui j'ai travaillé ont fait de l'élevage, on a une relation respectueuse aux animaux, etc. On nous traite d'archaïques, de petits amateurs, etc. Ou est-ce que c'est ces gens-là qui gagnent une fortune, qui ont des gros bâtiments, gros tracteurs, gros endettements?
Vous dites c'est l'argent finalement qui était le plus important. Ouais. C'était pas du tout l'animal, évidemment. Non. C'était juste un objet pour gagner de l'argent.
Le système industriel, leur seule rationalité, mais c'est le cas des productions animales depuis le 19e siècle, les productions animales, elles ont été construites sur l'idée que le travail avec les animaux, c'était générateur de profit, parce que l'animal est une ressource, comme la mine, comme le charbon, le bois. C'est une ressource, il faut l'exploiter au maximum, que ça produise un maximum d'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. Il y a cette ressource animale, en fait, elle a des rendements décroissants en termes de profit. Et donc, il y a des perspectives autres, beaucoup, beaucoup plus rentables. Et c'est ça que j'essaye de posé comme hypothèse, c'est que la manne financière issue des productions animales, elle se tarit et que donc maintenant, il y a des ressources beaucoup, beaucoup plus...
Oui, et les industriels le disent eux-mêmes. Exactement. D'ailleurs, hein, les industriels de l'agroalimentaire, ils voient évidemment dans la consommation de cette viande propre du futur, donc sans viande ou juste avec des cellules animales, eh bien un marché extrêmement juteux, très important. Et vous dites que finalement, les véganes aujourd'hui soutiennent ce capitalisme-là avec ces industriels avec lesquels ils ont même des liens d'intérêt. Et là, vous tapez très fort, parce que vous dites L214 par exemple, est financé directement par des associations américaines, par exemple, que vous citez.
C'est-à-dire, au départ, je me disais, ils soutiennent les biotech et des associations comme L214, mais aussi PETA aux États-Unis, mais aussi Gaïa. PETA, dès 2008, a proposé de financer la viande in vitro. Hein. C'est pas récent. Et je me suis dit, mais comment se construit cette collusion? Pourquoi il y a cette affaire ensemble d'agriculture sans élevage et comment ça se goupille? Puis c'est au fur et à mesure, en voyant qu'elle 214 était extrêmement riche, avait un nombre de salariés incroyable, fonctionnait comme une start-up, etc., je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que cette association promeut, quoi? Est-ce qu'elle défend les animaux? Est-ce qu'elle prépare l'agriculture sans élevage, mais avec quelle alternative? Donc, et en fait, si on regarde ce qu'ils font concrètement, d'où vient leur argent, effectivement, on se dit qu'ils sont engagés dans les alternatives végétales et cellulaires à l'élevage et qu'ils sont actifs au sein même du capitalisme. C'est-à-dire qu'ils prétendent un monde respectueux avec les animaux. C'est-à-dire, c'est tellement contradictoire avec tout leur discours. C'est ça qui m'a étonné, quoi.
Vous dites finalement c'est un lobby en soi. Hein.
C'est déjà un lobby.
Une association comme celle-là ou comme tant d'autres, ce sont des lobbies.
C'est un énorme lobby qui a une puissance financière très importante.
Mais ce qu'il révèle quand même, Jocelyne Porcher, toutes ces vidéos qu'on voit des abattoirs, la façon dont sont élevés les animaux, c'est extrêmement important de le montrer. S'ils ont fait un boulot formidable là-dessus, non?
Ça serait un boulot formidable si derrière il y avait des alternatives qui soutiennent notre relation aux animaux. Là, c'est, ils dénoncent quelque chose qui est à dénoncer, mais qui est à dénoncer depuis 50 ans.
C'est ça qui est difficile à entendre d'ailleurs dans votre discours finalement. Hein. C'est que vous êtes d'accord qu'il faut le dénoncer.
Il faut le dénoncer, mais ça, c'est maintenant, il faut le dénoncer à condition, et ça serait utile si on disait, arrêtons ça, refaisons de l'élevage, reconstruisons des liens avec les animaux. Tandis que là, ils disent, arrêtons ça, arrêtons tout.
Bah oui, mais ils sont véganes, donc c'est sûr.
Bah oui, mais du coup, ça veut dire, arrêtons d'élever des vaches, arrêtons, et demain, arrêtons, enfin même aujourd'hui d'ailleurs, arrêtons d'élever des chevaux, demain, arrêtons d'élever des chiens.
Vous dites, c'est la disparition des animaux.
Domestiques, tout à fait. C'est un processus, on entre, à mon avis, dans un processus de rupture avec les animaux domestiques qui vraiment prend corps dans... Voilà l'évolution de nos sociétés, quoi.
Jocelyne Porcher, vous êtes notre invitée. Il y a beaucoup de messages pour vous déjà, vous imaginez bien, au standard de France Inter et par mail. On vous retrouve dans un instant, 01 45 24 7000 pour dialoguer avec vous autour de ce livre « Cause animale, cause du capital ».
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, donc en duplex des studios de France Bleu Azur à Nice, car vous passez le début de la semaine à quelques kilomètres de la Monaco, où les experts, Camille, du climat, le GIEC, donc, sont réunis depuis vendredi pour finaliser leur rapport sur les océans et la cryosphère. Et à première vue, Monaco ne rime pas forcément avec écolo.
Ah non, je vais juste vous décrire par exemple ce qu'on voit depuis le Grimaldi Forum, le centre de congrès où est réuni le GIEC. À droite, la mer avec des yachts au loin et des grues. Il y a des travaux, je vous en parlerai tout à l'heure. À gauche, la route, quelques palmiers et des barres d'immeubles tout le long de la falaise. Ça monte très haut, que du béton et dans le ciel. Voilà, il y a un hélicoptère qui vient de passer. Alors, il y a quand même des jardins sur le rocher à côté du Palais des Princes, y compris un jardin japonais. Mais sachez que la principauté de 2 km carrés est artificialisée à 90%. Et quand je demande l'événement de la semaine ici, dans la rue, voilà ce qu'on me répond.
Il y a le yacht show, c'est par là-bas, vers le port.
Le Monte Carlo yacht show.
Je voudrais savoir si vous savez le grand événement cette semaine à Monaco.
Oui, le Monaco yacht show, bien sûr.
Yacht show.
Ah, le yacht show.
C'est le show des bateaux. Au-delà de 30 mètres jusqu'à 140 mètres.
Et le GIEC, vous avez entendu parler du GIEC ?
Non, c'est quoi ?
GIEC ? Le GIEC.
GIEC, non.
Voilà, on est donc en mode yacht show, Mathieu, hein, le salon des yachts qui commence mercredi, j'irai faire un petit tour. Mercredi, jour de présentation du rapport sur les océans, c'est ballot. D'ailleurs, il n'y a pas eu une seule manifestation pour le climat ici, vendredi et samedi. Mais certains monégasques assurent être écolo, preuve à l'appui.
Nous, en tant qu'habitants de Monaco, on a une carte Clink.
C'est
donc c'est une carte comme une carte de crédit. On recycle en fait le verre. Et on obtient des points, et puis après on a des avantages sur certaines boutiques de Monaco.
Donc pour vous, habitants de Monaco, c'est important l'écologie ?
Ben forcément.
D'accord. Voilà. Vous n'avez pas de voiture ?
Si, mais les voitures sont au garage. Donc.
Et c'est quoi comme voiture vous avez, juste pour info ?
C'est des gros cylindrés, mais ça intéresse personne. C'est
pas... Ah ben si, ça intéresse, parce que ça fait aussi partie de la carte postale, les grosses voitures. Ah tiens, c'est une Maserati tiens, qui passe. Et le monsieur qui monte dans sa Porsche, il en pense quoi ? C'est important pour vous, le climat ?
Oui, très important.
Et la voiture, elle pollue ou pas ?
La voiture, elle pollue, mais elle pollue pas beaucoup. Mais j'ai aussi une auto électrique que j'utilise tous les jours.
La Porsche, c'est pour quoi ? C'est pour...
C'est seulement pour le week-end avec la fiancée. Ok ?
Ah, ce petit bruit de moteur. Bon, alors vous allez me dire, ça suffit les clichés, Camille. Ok, après tout, Monaco s'affiche comme cité durable, avec entre autres le musée océanographique, des projets sur les énergies renouvelables, le tri sélectif, un programme de compensation de carbone, des véhicules officiels électriques, des financements pour la recherche et pour des bourses du GIEC au passage. Hein, par exemple, 210 000 euros cette année de la Fondation du Prince Albert II. Mais certains habitants ne sont pas dupes. Ici, on affiche partout environnement, mais ce n'est pas vrai. Et une autre habitante, qu'est-ce qu'elle dit ?
Je trouve que c'est complètement paradoxal de diriger une principauté qui est tellement pleine d'immeubles, pleine de circulation, pleine de chantiers, et s'afficher comme défenseur de l'environnement. Peut-être qu'il y croit, mais c'est vraiment difficile à faire passer. Et on n'a pas encore parlé des bateaux de croisière, et on n'a pas parlé non plus de ça.
Alors ça, ce sont les travaux dont je vous parlais tout à l'heure. La construction d'un éco-quartier sur la mer. Il y aura en 2025 5 immeubles et 14 villas à 100 000 euros le mètre carré. Sur l'eau, donc, énorme chantier en cours. Mais l'État et Bouygues à la manœuvre affirme que tout est fait pour protéger les fonds marins. Des espèces de coquillages et plantes ont été déplacées dans la réserve juste à côté. Une rigolade pour certains scientifiques, notamment du WWF, car les petits fonds marins sont détruits alors que c'est là où les poissons se reproduisent. Mais ne vous inquiétez pas, donc, hein, Monaco gère. Il y aura d'ailleurs jeudi soir un grand gala pour sauver les océans avec Robert Redford et j'ai croisé des invités.
Nous sommes venus pour les galas océaniques des Prince Albert.
Et pourquoi vous allez au gala?
Parce que nous voulons donner quelque chose pour le climat. Ça va être 30 000, quelque chose comme ça.
Ah, vous allez donner 30 000 euros?
Oui, oui, c'est ça, pour les bons climats.
Voilà, l'écologie façon Monaco, mais c'est déjà ça, Mathieu.
Ben oui, 30 000 euros pour le bon climat, il faut toujours prendre. Merci beaucoup Camille. Votre chronique Camille Passauvert est évidemment à réécouter sur franceinter.fr. Et on se retrouve demain, donc toujours depuis Monaco. Vous allez pouvoir rentrer en ville, vous êtes sûr maintenant?
Non, c'est bon, je vais pouvoir y rentrer, puis demain je vais vous raconter les coulisses des négociations avec les scientifiques du GIEC.
Merci beaucoup Camille Cronier. Jocelyne Porcher, justement, le rapport du GIEC publié en août de cette année consacre un chapitre à l'alimentation et il montre clairement que les régimes végétaliens, végétariens et flexitariens qui n'incluent que peu, voire pas du tout de viande sont ceux qui ont le moins d'effets négatifs sur les empreintes carbone. Comment on fait justement avec ça quand on veut à la fois défendre l'élevage et puis prendre en compte l'environnement?
Mais déjà, ça serait bien que dans le rapport du GIEC, il y ait des différences marquées entre les productions animales, c'est-à-dire toute cette masse de production industrielle intensifiée qui effectivement a un impact sur la planète, et puis l'élevage des paysans avec leurs animaux, par exemple dans le Cantal ou en Lozère, là, et dont l'impact évidemment est plutôt positif que négatif. Puis il y a aussi autre chose, c'est le fait de dire régime végétarien, alors végétalien ou vegan, on comprend, on rompt avec les animaux, on mange plus rien d'animal, on porte pas de cuir, on mange pas de miel, etc. Bon, purée. Voilà. On bannit les animaux au nom de notre respect des animaux, on les bannit de nos vies. Par contre, quand on est végétarien, on dépend de l'élevage. Un végétarien, il mange des produits laitiers, il mange des œufs, donc il dépend de l'élevage. Et si lui ne mange pas de viande, il ou elle ne mange pas de viande, c'est parce que d'autres la mangent. C'est-à-dire, pour qu'il y ait des végétariens, il faut qu'il y ait des gens qui mangent de la viande. Parce que quand on produit des œufs, quand on produit du lait, derrière le lait, il y a un veau qui est né pour faire la lactation, et puis après une vache de réfort. Donc en fait, dès qu'on mange, quand vous mangez du fromage blanc que vous allez acheter au supermarché, vous participez à l'élevage, et donc c'est important de choisir déjà des fromages blancs issus d'élevage et pas issus des productions industrielles, puis en plus de se dire, moi je participe, je mange du fromage blanc, je participe à l'élevage, je défends un élevage digne de ce nom. Et donc être végétarien, c'est... Voilà, les végétariens se défaussent de la consommation de viande, ça ne veut pas dire que derrière leur consommation, il n'y a pas de viande.
La question environnementale est importante pour le consommateur aussi, voilà, dans son rapport à la viande. Allez, on laisse la place aux auditeurs dans un instant, ils sont déjà au standard 01 45 24 7000, on se retrouve dans un instant. Qu'est-ce qui nous arrive? Nadia, Nadia, Nadia. Nelson Beer, c'était Nadia.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
On est où là? C'est quoi? C'est une sorte de maternité, c'est ça?
Voilà, ça c'est le pire de l'élevage, c'est les maternités porcines. Donc ils ont détruit, ils les enferment dans des cages où elles n'ont pas la place de se retourner, elles ont juste la place de se relever, de se coucher. En fait, elles mettent bas, donc elles sont là pour produire des petits porcelets.
Il y a même certaines truies qui sont plus grosses que les cages et donc les barreaux leur cisaillent le corps comme ici.
Elles n'ont pas la place de se retourner en fait, donc elles peuvent juste se coucher. Et...
Là on voit qu'elle essaye de bouger, elle n'y arrive pas.
Voilà, c'était un exemple d'élevage industriel de cochons avec Combini et Hugo Clément qui avaient fait un reportage sur la question. Vous êtes notre invité, Jocelyne Porcher. Il y a beaucoup de questions pour vous au Standard de France Inter, donc je vous propose tout de suite d'accueillir Jean-Bernard qui est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Bernard.
Merci, oui, bonjour.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Voilà, alors donc moi je me présente tout de suite, je suis un viandard. Voilà, c'est ce que j'ai dit à la personne qui m'a répondu en premier. Et donc, mais par contre, depuis plusieurs années, on entend parler justement de faire cultiver des steaks,
fabriqués synthétiquement, hein, c'est ça ?
Oui, voilà, exactement. Et donc, en quoi est le mal ? Alors évidemment, j'imagine qu'il peut y avoir une industrie, donc du capitalisme, mais bon, le capitalisme récupère tout et n'importe quoi, y compris les images de Che Guevara, par exemple, hein, pour en vendre des milliers et des millions dans le monde. En quoi est-ce que le problème serait que ça soit récupérable par le capitalisme ? Parce qu'après, il suffirait de repenser le capitalisme pour moins exploiter les gens qui travaillent, etc. Par contre, par rapport à la souffrance animale, ça serait quand même pas plus mal de les faire pousser. Enfin, j'en sais rien, j'en ai jamais goûté. Moi qui aime bien la viande persillée, etc., je vous ai dit, je suis un viandard, comment ça pourrait se passer du point de vue gustatif, du point de vue social, etc. Voilà, ça ouvre pas mal de questions.
Alors, Jocelyne Porcher va vous répondre. Et c'est vrai que c'est un des points peut-être les plus difficiles, c'est distinguer le capitalisme de la souffrance animale dans toute cette affaire. Hein.
Mais je crois que ce que dit l'auditeur là, c'est en fait ça renvoie un peu à ce que dit Marc Post, là, le pionnier de cette viande in vitro, qui dit que la viande in vitro c'est la même chose que la viande, c'est 100% naturel. La seule différence c'est que ça grossit en dehors de la vache. Voilà, c'est son point de vue et c'est de ça qu'il part pour dire que ce que c'est que la viande in vitro, que cultiver les cellules en dehors de l'animal, c'est la même chose. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. Enfin, moi, ce qui m'intéresse plus que l'alimentation, c'est la relation aux animaux. Et donc, derrière la viande, il y a de l'élevage, il y a de la culture, il y a 10 000 ans d'histoire, etc. Derrière la viande in vitro, il n'y a rien. C'est de la culture de cellules. C'est du vivant biologique. C'est ce que je dis dans un article que je sais pas si je reprends dans le livre, mais c'est du vivant biologique, mais c'est du mort subjectif. C'est en fait parce que on dit ça sera bien. Il y a plus de mort animale, du coup, on mange de la viande sans mort.
Oui, mais c'est important, ça, déjà, non?
Eh ben oui, mais s'il n'y a plus de mort, c'est parce qu'il n'y a plus de vie. Enfin, il faut bien réaliser que la vie et la mort, ça va ensemble. Là où il n'y a pas de mort, c'est qu'il n'y a pas de vie.
Vous dites donc que ces animaux, ils auront disparu, c'est ça?
Les animaux vont disparaître, puisque, comme disent les concepteurs, il suffira d'une vache pour nourrir la moitié du monde. D'une part, ça va faire disparaître les animaux de ferme, mais d'autre part, le produit lui-même, enfin, moi, mon avis, je le définis comme du mort vivant. Du vivant biologique, de la cellule qui se reproduit, mais du mort subjectif, puisqu'il n'y a pas de vie. Quand on mange de la viande, on incorpore un animal, on fait circuler la vie, en fait. Et pareil, quand un animal mange un autre animal, c'est de la vie qui circule en nous. Donc, en fait, cette incorporation de l'animal, il participe à notre vie, à notre santé. Et depuis des milliers d'années, on a incorporé cette transmission, cette circulation, ce flux de vie entre les animaux et nous, et qui fait notre existence. Et donc là, il s'agit de rompre avec ça.
Que c'est un discours qui est difficilement compréhensible finalement pour beaucoup de gens, Jocelyne Porcher, parce qu'on s'intéresse aujourd'hui à cette question de la souffrance animale qui est vraiment qui désole absolument tout le monde quand on voit ces images. Et si on peut trouver un moyen avec, pourquoi pas, effectivement, cette industrie synthétique de s'en passer, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en priver? Au-delà même de ce flux de vie que vous décrivez
Mais ce flux de vie, c'est très important. D'autre part, il y a le fait que déjà, on est asservi aux multinationales pour notre alimentation, on va être asservi encore plus.
Alors ça, c'est la question du capitalisme.
Oui, mais le jour où ils auront construit leurs usines et ils fabriqueront la viande, c'est quand même la protéine indispensable à la vie dans leurs usines, et peut-être même sur Mars, pourquoi pas, nous, on n'aura qu'à manger. On sera comme des cochons industriels, on mangera ce qu'il y a dans notre rouge. Et puis, il y a le fait, mais c'est vraiment le gros truc, c'est qu'en dehors des systèmes industriels qui font souffrir les animaux, on peut élever les animaux autrement. Moi, j'étais éleveuse, je connais des tas d'éleveurs. L'élevage, ça existe.
Justement, une question d'auditeur. Comment est-ce qu'on tue respectueusement un animal, pour reprendre un peu vos propos tout à l'heure? Ça consiste en quoi de tuer respectueusement une brebis ou un cochon?
Créer une association avec un éleveur qui s'appelle Quand l'abattoir vient à la ferme pour promouvoir l'abattage à la ferme.
Oui.
Les systèmes industriels, c'est à la fois de la production de la matière animale et de la transformation de la matière animale. Donc effectivement, les abattoirs, ils sont comme les systèmes de production dont on a entendu parler tout à l'heure. C'est abominable. Donc il faut sortir les animaux des systèmes industriels, il faut les sortir des abattoirs industriels, il faut les élever correctement et faire en sorte qu'après un bon élevage, il y ait le plus possible une bonne mort, et ça, on essaie de le faire dans des systèmes d'abattage à la ferme.
Fabrice, vous êtes en ligne avec nous, bonjour, et le temps passe vite, on écoute votre question.
Oui, bonjour, ma question est simple. Madame Porcher a développé une théorie, là, lu dans ses livres ou écouté France Inter, comme quoi des animaux destinés à l'abattoir, comme des porcs industriels, avaient un peu le plaisir de travailler pour nous. Voilà. Elle disait que les animaux, en fin de compte, ressentaient un certain plaisir à travailler. C'était son terme exact.
Mmh.
Alors moi, ça me choque un petit peu. J'ai élevé des porcs, indus, j'ai jamais, dans des conditions assez effroyables, et je vois pas trop où est le plaisir des animaux de travailler pour nous. Autant je le comprends, par exemple, pour des chevaux de centre équestre, ou des chiens d'aveugle, là, je suis d'accord. Mais alors, des animaux qui sont destinés à être abattus à l'âge de 6 mois, comme des porcs charcutiers, je vois pas trop où est le plaisir pour eux de travailler pour l'homme qui va les tuer. Voilà, je voudrais que...
Elle va vous répondre, alors, Jocelyne Porcher, puisqu'elle vous écoute attentivement, Fabrice. Merci en tout cas pour votre question.
C'est intéressant d'amener la question du travail, parce que c'est justement ce qui différencie les systèmes industriels des systèmes d'élevage, c'est le rapport des animaux au travail. Effectivement, une truie dans un système industriel, elle est contrainte, elle est aliénée, elle est bloquée on lui extrait, ce que je disais au départ, on extrait la matière animale, elle participe aucunement à ce processus.
L'animal dans un élevage.
Mais l'animal dans un élevage.
Plus humain, entre guillemets. On lui a demandé s'il était heureux vraiment de travailler. Enfin, comment on peut le savoir? C'est très subjectif, quand même.
C'est notre sujet de recherche avec l'équipe que j'anime, qui s'appelle Animals Lab. On travaille justement sur cette question de la participation des animaux au travail, de leur implication dans le travail et de ce que ça leur fait d'un point de vue subjectif. Est-ce que ça leur apporte quelque chose? Est-ce que ça les rend plus intelligents, plus heureux, etc.? Et donc, on a travaillé dans de nombreux terrains. Et c'est évident qu'en système industriel, les conditions de travail sont tellement horribles que non, les animaux ne peuvent pas tirer plaisir du tout d'être enfermés. Pas plus que les travailleurs qui sont avec eux.
Ouais. Nathalie dit parler de la relation ancestrale n'est pas la meilleure justification. On peut se rappeler des pratiques ancestrales sur les enfants, les femmes ou d'autres humains qu'on aimerait ne pas voir maintenues. Non.
Non, mais moi, je parle pas de pratique ancestrale, personnellement. Je parle d'élevage comme un fil historique multimillénaire de relations aux animaux, mais les éleveurs d'aujourd'hui, c'est pas les éleveurs d'hier. Un éleveur d'aujourd'hui, il fait pas comme ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents. L'élevage aujourd'hui, il se réinvente au fur et à mesure avec, dans les conditions aujourd'hui, les animaux d'aujourd'hui, les humains d'aujourd'hui, la nature d'aujourd'hui.
Et on peut en savoir plus en lisant cet ouvrage Cause animale, cause du capital, Jocelyne Porcher. C'est aux éditions du Bord de l'eau. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous.
Dans la Terre au carré, juste après les infos, vos solutions pour la planète, avec aujourd'hui un chercheur français que nous retrouverons en direct du Brésil. Il souhaite lancer un appel pour trouver des partenaires pour former des jeunes dans les sciences de la biodiversité.
France Inter, la Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, une nouvelle série de reportages signée Antoine Lee sur l'écologie dans les banlieues. Et puis notre invité découverte sera Brice Teinturier, le patron d'Ipsos, au sujet de cette enquête qui montre que pour la première fois, l'environnement est devenu l'enjeu essentiel pour les Français. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète. Et nous sommes en ligne depuis le Brésil avec vous, Hugo Aguilaniou. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous. Vous êtes généticien, directeur de recherche au CNRS et vous dirigez un institut de recherche à Rio de Janeiro. Quel est son nom d'ailleurs?
Ça s'appelle l'Institut Serra Pilheira.
Ça veut dire quelque chose de précis? Oui. Ça veut dire quelque chose de particulier?
Serra Pilheira, en fait, ça veut dire c'est la couche de feuilles et de matière organique qu'on trouve à la sur le sol d'une forêt qui donne la fertilité au sol. Donc c'est ça l'idée.
Quelle est la vocation justement alors de cet institut exactement ?
Alors c'est un institut privé, c'est l'initiative de deux personnes, deux philanthropes brésiliens qui sont par ailleurs très impliqués dans la promotion de la culture et qui ont décidé de fonder un peu cette fondation, qui est une fondation privée, pour promouvoir la science, la vulgarisation scientifique, qui est en fait une sorte d'agence de financement, sauf qu'elle est privée, avec des investissements stratégiques pour le Brésil, évidemment.
Alors là, vous avez donc travaillé sur l'idée de lancer un nouveau programme de formation de chercheurs dans un contexte particulier, là, quand même, autour de la science et de la biodiversité dans votre pays.
Oui, voilà. Donc notre fonction, c'est de trouver les meilleurs chercheurs du pays. On fait ça dans plusieurs domaines de la science, les mathématiques, la chimie et d'autres choses. Et là, on a décidé de lancer un programme qui est un programme un petit peu différent, qui vise vraiment à former une nouvelle génération et un réseau d'écologues et de biologistes de la diversité, on va dire, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup besoin au Brésil, donc c'est un problème qui est, comme vous le savez bien, qui est un petit peu vraiment très aigu, hein, dans le pays. Et pour ça, on essaye de monter un programme ici à Rio, de sélectionner des jeunes étudiants, des jeunes masters, après leur master, et de leur faire passer par un programme de formation à la recherche très très intense à Rio d'à peu près 8 mois, ce après quoi ils pourraient faire leur doctorat de thèse où ils le veulent. Donc on inviterait pendant une huitaine de mois des chercheurs parmi les meilleurs chercheurs au monde, donc on a des chercheurs un peu partout dans le monde, pour leur montrer ce qui se fait de mieux et pour surtout faire de l'écologie next generation, j'ai envie de dire, avec un appui très fort sur l'usage des mathématiques, l'usage de la physique théorique pour vraiment pouvoir appréhender la complexité de la biodiversité tropicale qui est particulièrement complexe.
Alors ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que le Brésil est le pays probablement le plus riche au monde en termes de biodiversité, que vous faites face donc à cette pénurie de chercheurs. Le tout dans ce contexte du président Bolsonaro qui n'encourage pas du tout, j'imagine, les scientifiques dans ce domaine-là, hein.
Bah, oui, la situation scientifique, la situation de la recherche au Brésil, du recherche scientifique au Brésil est vraiment, j'allais dire, catastrophique. Mmh. Et c'est un petit peu pour ça aussi que nous on s'engage. On est privé, donc on dépend pas du gouvernement, ce qui nous donne une autonomie qui, en ce moment particulier, est particulièrement appréciable. Ceci étant, on essaye d'impliquer dans nos démarches des partenaires internationaux, parce que comme vous le dites, c'est une question qui est une question évidemment fondamentalement brésilienne. C'est très important que les Brésiliens sachent construire et faire la meilleure science qui soit sur ces domaines-là, mais on pense que c'est très important qu'ils fassent ça en collaboration avec le reste du monde, bien sûr.
Ouais. Et vous lancez un appel aux Français, là, en ce qui vous concerne aujourd'hui ?
Oui, je lance un appel aux Français. Parce que je suis français, évidemment. On a commencé à parler de ce programme. On commence à avoir évidemment beaucoup de gens qui sont intéressés pour participer. Donc notamment participer avec une bourse de thèse, par exemple. On a beaucoup de réponses aux États-Unis. On a beaucoup de réponses en Europe. Évidemment, moi, j'ai particulièrement à cœur que une partie du programme, en tout cas, se passe en France. Donc l'idée, ce serait d'inviter des chercheurs français référents pour participer de la formation. Donc il resterait quelques jours, peut-être une semaine à Rio. Et puis en contrepartie, les étudiants pourraient faire leur thèse, par exemple de doctorat, en France. Je pense que ce serait pas mal. Donc il n'est pas question, on aura entre 15 et 20 étudiants. Mmh. Il n'est vraiment pas du tout question que les 15 ou 20 se retrouvent dans un pays en particulier. L'idée, c'est qu'ils soient un petit peu répartis partout pour qu'ils apprennent le plus possible, et en tant que groupe et en tant qu'individu. Mais je trouve que ce serait bien que la France fasse partie de cet effort, évidemment.
Donc appel à de jeunes biologistes, hein, pour vivre cette aventure scientifique avec vous, donc au Brésil en particulier. Donc on peut se renseigner sur une adresse internet qu'on va mettre en lien, évidemment, sur la Terre au carré. Un dernier mot très rapidement, Hugo Aguilaniou. Oui. La forêt amazonienne, on en parle moins là ces derniers temps ici en France. Où est-ce qu'on en est sur le front des incendies?
Ah bah, on en est à peu près toujours dans la même dynamique. Il se passe qu'il y a quelque chose de naturel, c'est que là on est en train de rentrer dans le printemps le printemps brésilien, donc ça c'est associé avec un petit peu plus de pluie, donc les choses automatiquement vont s'améliorer, mais enfin s'il n'y a pas un effort qui est important et qu'on n'arrive pas à produire des réponses concrètes pour les lobbies qui veulent faire pousser du soja ou qu'on n'arrive pas à créer des alternatives, évidemment ça va être compliqué parce que ça va se reproduire l'année prochaine, donc il y a une sorte de saisonnalité qui fait que les feux vont diminuer, mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'on fasse de gros efforts.
Voilà, vous allez pouvoir écouter votre message qui vient de tomber sur votre téléphone portable, Hugo Aguilagnou. Merci beaucoup, en tout cas, de cet appel.
Merci de m'avoir accordé, Mathieu, c'est très gentil.
Depuis le Brésil, et puis donc pour tous les jeunes biologistes français qui souhaitent vous rejoindre, eh bien on met l'adresse, le lien sur le site de la Terre au Carré. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Antoine Lee, cette semaine Antoine, pour la Terre au Carré, vous nous proposez une série sur l'écologie en banlieue. Et aujourd'hui, on va démarrer avec un reportage qui va à l'encontre des clichés concernant les jeunes qui y vivent.
Et oui, généralement, quand on parle des banlieues, on parle de trafic de drogue, de violence, de pauvreté. Mais il s'y passe aussi des choses positives et notamment question environnement. Comme par exemple à Garges-lès-Gonesse, dans la banlieue nord de Paris, l'association Espoir et Création propose aux jeunes des quartiers de nettoyer leur cité. À l'origine de ces Clean Challenge, c'est-à-dire ces défis de nettoyage, il y a Inde Ayadi, cette mère de famille de 39 ans, équipe les ados de gants, de sacs poubelles et de pinces prévues pour ramasser les déchets qui jonchent le sol de la ville. Ce jour-là, elle a réussi à motiver une quinzaine de jeunes âgés de 10 à 17 ans.
On va vers là-bas ? Et ça serait bien de se mettre à deux. Genre, il y en a un qui tient le sac et l'autre la pince. Okay. Allez, c'est parti.
Tu vois, là, tu vas prendre des gants et tu vas chercher un sac poubelle, t'as capté ? Et tu vas venir ramasser avec nous.
Est-ce qu'on est payé ?
Est-ce qu'on est payé pour faire ça ? À son âge, il parle d'argent ? Non, toi, t'es chaud, toi. Tu sais pas c'est quoi de ramasser pour le bien de tous ? C'est pour toi, plus tard, hein ?
Demain, il y aura le même bordel.
Il y aura le même bordel ? Ben, si tu ramasses, tu donnes l'exemple, il y aura plus ce bordel-là. Parce que toi-même, ils vont devoir ramasser, les voisins vont se dire non, on peut plus jeter. C'est le petit qui parle d'argent à 11 ans qui ramasse.
Voilà.
On fait ça ou pas ?
Ok, vas-y.
Allez, donnez-lui des gants.
Inde Ayadi, là, c'est des jeunes vraiment, ils sont à peine majeurs.
Ouais.
Comment vous avez fait pour les convaincre de rejoindre ce défi pour nettoyer leur ville, leur quartier ?
Bah justement, on leur a dit que c'était pour le bien de leurs parents, pour le bien aussi de la planète, parce que c'est important aussi... De prendre soin de son quartier parce qu'on y vit de toute manière. Donc attendre des autres à chaque fois, se dire bah non, c'est les éboueurs, c'est les agents nettoyage qui vont le faire. Moi, certes, ils sont payés pour et tout ça, mais à un moment donné, on peut tous à notre échelle apporter pour la planète et pour son cadre de vie. C'est important. Quand on rentre dans un immeuble et que ça pue la pisse et qu'il y a des déchets, c'est nous qui y vivons quoi. C'est l'amélioration, elle est pour nous en fait, tout simplement.
Allô la street, voilà aujourd'hui on est au Vieux Pays avec France Inter qui est venu nous voir, nous rendre visite pour le Clean Challenge.
Ah, on est carrément donc, direct sur les réseaux sociaux là.
Ah oui, directement, c'est comme ça qu'on ameute les jeunes pour venir nous rejoindre et participer au Clean Challenge. Il n'y a pas d'âge hein, pour faire d'incivilité, donc il n'y a pas d'âge pour ramasser et nettoyer, voilà.
C'est quoi que vous ramassez là, entre autres ?
Des canettes, des mouchoirs, du plastique, des mégots.
Des bouteilles.
Voilà, toutes sortes de déchets qu'il y a dans la rue.
T'as fait une grosse découverte, toi ?
Une grosse capture. C'est un caddie sans roue.
Un caddie en plastique ?
Ouais. Et le plastique, ça pollue. Ça fait plusieurs jours que je passe par là. Il était là. Je l'ai jamais ramassé, mais là, c'est l'occasion.
Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, aujourd'hui ?
Je fais pas grand-chose de plus intéressant, donc autant faire quelque chose de bien pour la planète.
Qu'est-ce que tu fais, toi, d'habitude, à cette heure-ci ?
Bah, rien, je suis dehors avec mes potes, tout ça. On sait faire des bêtises comme on sait aussi faire des bonnes actions. Et aujourd'hui, on fait des bonnes actions.
Est-ce que cette journée-là, ça va changer ta façon d'être ?
Bah ouais, je pense, parce que la prochaine fois, imaginons que j'ai une canette, je l'ai finie, je vais l'acheter par terre. Je vais me rappeler que pendant toute une journée entière, j'ai passé à ramasser les déchets, etc. Donc je vais y penser à deux fois avant de la jeter. Et donc je pense que je la jetterai pas par terre, je trouverai une poubelle et je la jette dedans.
Ah, venez travailler là, ma gueule, vous êtes des ouf.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Ils veulent pas venir ramasser, c'est pas des bons citoyens.
C'est vos copains ?
Ouais, mais ils veulent pas participer.
Tu fais quoi ?
C'est pas grave, on fera sans eux.
Toi, l'écologie avant, c'était quelque chose d'important pour toi ou pas ?
Non, je savais même pas c'était quoi.
Tu savais pas ce que ça voulait dire l'écologie ?
Non, j'avais aucune idée.
À l'école, on vous enseigne ça ou pas ?
Non.
C'est vrai qu'il y a un manque de sensibilisation aussi importante dans les quartiers, ça c'est la vérité. Nous, l'écologie, elle nous est imposée, donc on n'a pas les moyens. Donc la maman va donner des fringues au petit frère, le bout de t-shirt qui est fatigué, bah, va le déchirer pour en faire une serpillière. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc c'est une écologie, on va dire, imposée. Après, c'est vrai que quand on a des difficultés, quand on est dans une misère sociale, c'est vrai que c'est le cas de notre souci. Il y a plein de mamans en plus, mères isolées dans les quartiers. Donc je pense que la maman, elle se prend la tête pour se dire comment je vais nourrir mon enfant, le vêtir, que ouais, la petite bouteille, il faut la recycler et tout ça. Ça, c'est une réalité aussi.
Mais est-ce que c'est une fatalité ?
Absolument pas, autrement, on ne serait pas là aujourd'hui.
Alors, il faut savoir, Antoine, que plusieurs quartiers de la banlieue parisienne proposent ce type d'action, également dans les quartiers nord de Marseille, dans plein de villes.
Ouais, et si vous voulez voir à quoi ressemblent ces opérations de nettoyage dans les cités, rendez-vous sur la page Facebook de La Terre au Carré, on y a mis plein de photos.
Et on vous retrouve demain avec un nouveau reportage, c'est la série de la semaine. L'écologie, justement, c'est une préoccupation désormais majeure pour les Français. On en parle dans un instant avec notre invité Brice Teinturier de l'Institut Ipsos. C'était Vampire Weekend.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du verre. Mais oui, j'ai mis du temps, comme d'autres Français, à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité.
La voix du Premier ministre Édouard Philippe en juin dernier. L'écologie, préoccupation désormais majeure pour les Français. C'est ce que révèle l'enquête Fracture française réalisée depuis 2013 par Ipsos Soprasteria. Bonjour Brice Teinturier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général délégué d'Ipsos. Est-ce que d'abord on a souvent interrogé les Français sur leur rapport à l'environnement dans le passé ?
Oui, on dispose quand même d'une série d'enquêtes maintenant depuis longtemps, mais ce qui était remarquable, c'est quand on posait des questions de préoccupation dans lesquelles on mettait en concurrence des dimensions comme l'environnement, le pouvoir d'achat, le chômage, l'immigration, etc., etc., on parlait peu de l'environnement tout simplement parce qu'elle était reléguée tout en bas du tableau. Et ce n'est que depuis 2 ans qu'on a vu véritablement et progressivement et de plus en plus rapidement cet enjeu monter dans les préoccupations. Et il s'est maintenant installé dans les 2-3 premières préoccupations des Français, en tête même dans notre dernière enquête Ipsos Soprasteria.
Ah ça c'est étonnant d'abord parce que les préoccupations sociales des Français sont très très importantes. Mais finalement, on se dit à la lecture de cette enquête que l'environnement c'est aussi une question sociale.
C'est aussi une question sociale et en tous les cas, c'est de moins en moins en concurrence avec les autres enjeux qui restent très importants.
Alors lesquels dans le top 3 ?
L'avenir du système social, justement, santé, retraite, etc. Le pouvoir d'achat également, troisième attente, et puis l'immigration... Plus loin derrière, 32% de citation, quatrième attente, contre 52% pour la protection de l'environnement.
Ouais.
Donc il y a véritablement là quelque chose qui s'est joué, qui vient du fait, je crois, que tout simplement les Français ont cessé d'être des spectateurs lointains des conséquences du climat, du réchauffement climatique, où ils pouvaient observer des ouragans, mais c'était loin de chez eux. Mmh. Ils le constatent maintenant dans leur vie quotidienne, ils l'expérimentent. Les enjeux de santé aussi sont des enjeux extrêmement puissants, qui ne cessent de progresser.
Donc la santé environnementale en l'occurrence.
Et exactement, ils sont reliés à l'environnement et au réchauffement climatique en général. Et du coup, on a quelque chose maintenant qui est profondément installé, notamment depuis 2 ans, et qui déborde, c'est ça que j'ai trouvé tout particulièrement intéressant, qui déborde le cadre d'une catégorie qui serait très limitée.
Oui.
Vous savez, l'image du cadre supérieur, bobo, de gauche, avec son vélo électrique et qui mange bio... C'est toujours vrai d'une certaine façon. Quand vous regardez les catégories qui citent le plus la protection de l'environnement comme enjeu prioritaire, vous trouvez bien quelque chose de plus marqué à gauche, chez les cadres supérieurs, etc. Mais ça, je crois que c'est devenu un stéréotype qui nous empêche de voir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que chez les plus de 60 ans, c'est la deuxième préoccupation. Mmh. Que chez les Français qui s'auto-définissent comme appartenant au milieu populaire, ça arrive au même niveau que le pouvoir d'achat. Et le fait majeur, il me semble, il est là. Il est que, bien sûr, il y a toujours une sociologie très typée de ceux qui sont particulièrement préoccupés par l'environnement, mais qu'en réalité, ça fait tache d'huile.
Oui.
C'est en train, véritablement, d'imprégner profondément l'ensemble de la société française.
Oui. Donc ça, on peut vraiment le dire aujourd'hui. L'environnement, l'écologie, c'est toute la société qui s'en empare et qui s'y intéresse, ou il faut faire quelques nuances.
Il y a quand même des nuances. D'abord, il y a des nuances donc d'intensité. Mmh. Si vous êtes un sympathisant de droite, vous êtes moins préoccupé qu'un sympathisant de gauche, même si vous
donc l'écologie est plus de gauche.
L'écologie reste quelque chose, effectivement, qui est plus de gauche, parce que les sympathisants de droite, qui sont plus âgés, sont davantage préoccupés par l'avenir du système de retraite ou par les questions d'immigration. Mmh. Et quand vous les mettez en concurrence, du coup, ça relègue un peu l'environnement à un niveau plus faible. Mais globalement, et donc même s'il y a une sociologie typée, c'est quelque chose qui fait tache d'huile, sauf chez les électeurs du Rassemblement National, là, très clairement, c'est pas leur sujet, chez les personnes qui se déclare comme appartenant au milieu défavorisé, et notamment chez ceux dont les revenus du foyer sont inférieurs à 1 200 € par mois, où là vous avez une urgence et des enjeux de précarité tels que l'environnement, c'est quand même quelque chose que vous reléguez loin derrière vos autres préoccupations.
Ouais.
Mais une fois qu'on a dit ça, avec des différences d'intensité, la préoccupation, elle est montante et elle gagne donc même des plus âgés, et c'était pas le cas il y a encore quelques années, et même donc des milieux populaires.
Ouais. Donc on le voit bien aujourd'hui, il y a un enjeu électoral très fort, évidemment, autour de ces questions d'écologie. Chacun y va d'ailleurs de sa formule ou de sa pensée autour de la question, et même Marine Le Pen, même si ses électeurs a priori ne s'y intéressent pas, c'est-à-dire qu'elle-même est obligée d'en parler façon Rassemblement National quand même. Hein.
Oui, vous avez raison. Alors elle l'articule évidemment à la thématique qui est la sienne, qui va être celle de la souveraineté nationale, et donc elle va le raccrocher aux frontières, au local, à la critique de la mondialisation. C'est ce qui lui permet de récupérer cette thématique de l'environnement en disant mais elle fait totalement partie de notre corpus et elle est même complètement logique avec ce que nous défendons depuis longtemps. Donc il y a des stratégies de chaque responsable politique pour accaparer cet enjeu qui est devenu extrêmement important. Mais pour les Français, malgré tout, la vraie question, c'est toujours celle de la crédibilité. Il ne suffit pas de se dire partisan de mieux lutter pour assurer la protection de l'environnement. Ce que les Français demandent, dans une opinion publique qui reste extraordinairement défiante, ce sont des actions, ce sont des preuves. Et puis il y a aussi des ambivalences, et il faut en parler des Français, parce qu'à la fois, ils demandent ça, ils demandent des preuves, ils demandent des actions, mais dès que cela vient percuter malgré tout les problématiques de pouvoir d'achat, et on l'a vu au moment des Gilets jaunes aussi,
la question de la taxe carbone,
évidemment. Tout à fait, là les choses deviennent plus compliquées.
Ouais. Et ça va revenir au centre des discussions, évidemment. Hein.
Certainement.
Alors, cette progression là de l'environnement, justement comme préoccupation des Français, vous disiez, on l'a vu s'installer il y a à peu près 2 ans, on a bien identifié les facteurs permettant cette émergence dans le débat public ou pas ?
Oui, je crois qu'on la voit maintenant assez bien. D'abord, il y a, au cours des 5 dernières années, les climato-sceptiques, en tous les cas en France, ont considérablement reflué. Et l'idée qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique et qu'il n'était, si on l'admettait, absolument pas dû à l'activité humaine, en France, a réellement, je ne veux pas dire disparu, mais considérablement...
Le discours passe plus.
Reflué, ça ne passe plus. Ce qui s'est produit au cours des 2 dernières années, je crois que ce sont des constats individuels et personnels des Français. À travers les variations de température, tout simplement, à travers les canicules, on a vécu en France, donc pas là-bas, loin, des épisodes qui ont été extrêmement concrets et puissants. Les préoccupations autour de la pollution aussi se sont accrues avec des effets mesurés sur la santé. Et puis la démission de Nicolas Hulot a joué un rôle. Moi j'ai vu très clairement à la fin de cet été-là comment on avait un décollage de cette préoccupation et tout à coup les déclarations d'un certain nombre d'experts et de responsables politiques ont sonné, comment dire, plus vrai aux yeux des Français. Et donc la progression a été ensuite extrêmement rapide, rentrant en concurrence avec celle sur le pouvoir d'achat au moment des Gilets jaunes, mais ne disparaissant absolument pas et s'installant, on va dire, dans le top 3 des grandes préoccupations des Français.
Avec une traduction dans les urnes, hein. Quand même, il ne faut pas oublier le résultat des élections européennes. Hein.
Avec une traduction tout à fait aux européennes, 13,5% pour la liste donc conduite par Yannick Jadot, que moi j'ai tendance malgré tout à un petit peu nuancer, parce que c'est 13,5% dans une élection où il y a 50% d'abstention. Donc ça, on ne peut pas dire qu'on a eu une traduction électorale massive.
Non, mais il y a quand même l'enjeu des municipales qui arrive, et ça personne évidemment ne l'oublie.
Alors, non seulement personne ne l'oublie, mais je crois que ça pèse même beaucoup dans les tractations des partis politiques. Ce sera plus difficile pour les écologistes de percer au municipal, parce que là, vous avez des maires qui peuvent avoir bien travaillé, qui ont un bilan et qui, sans être écologistes, peuvent être correctement perçus par les Français. Mais quoi qu'on en dise, et quel que soit le résultat à venir des municipales, vous avez raison, il y a eu malgré tout aux européennes un bon score des écologistes, le 2e meilleur score même de leur histoire politique aux européennes, et on a eu également une relative bonne mobilisation par rapport à ce qu'était le niveau abyssal de l'abstention aux européennes traditionnellement.
Brice Teinturier, les jeunes très concernés donc par l'écologie aujourd'hui ?
Oui, les 18-24 ans sont la catégorie la plus concernée par le sujet environnemental. Il ne faut jamais oublier que vous avez 2 jeunesses, hein, qu'il n'y a pas une jeunesse qui serait justement très sur l'environnement, très généreuse, très altruiste, etc. Elle existe. Vous avez une autre jeunesse qui est précarisée, qui vote d'ailleurs Front National ou qui s'abstient, et qui, elle, est dans un autre mode qui est beaucoup plus un mode de survie face à une précarité extrêmement importante et donc qui rejoint les défavorisés que j'évoquais et qui, eux, relèguent l'environnement.
Et comment vous observez finalement le peu de mobilisation de la jeunesse française par rapport au reste de la planète ce week-end pour les marches sur le climat, et vendredi en particulier, 250 000 jeunes à New York, à Manhattan, et 9 000 à peu près à Paris, pas plus.
Oui, extrêmement peu à Paris. Alors, il y avait plusieurs mobilisations en même temps, c'était pas forcément...
Mais vendredi, vendredi c'était vraiment les jeunes qui étaient là.
Tout à fait. Il y a en France quelque chose de très spécifique sur les manifestations, qui est que les Français n'y croient plus, ne pensent plus que c'est un mode opératoire qui permet d'obtenir des résultats.
C'est ce qui ressortait d'ailleurs de la bouche de ces jeunes qu'on a pu interviewer. Merci beaucoup Brice Teinturier, Fracture française, donc, et cette enquête réalisée par Ipsos Soprasteria pour justement la préoccupation maintenant majeure des Français qui concerne l'environnement. Merci beaucoup.
Merci à vous
d'être venu dans la Terre au Carré.